quartier libre. Épisode 1. Trois fois Sally.
Sally, cadre de service, unité post-opératoire. Objet, à l'intention de la direction du CHU. Liste des futurs congés. Christine Duguay, le 21 décembre. Evelyne Poirot, le 22. Camille Etienne, du 24 au 27. Remplacée par Cindy Marshall. Myriam Mansouri, du 23 au 28. Le soir de Noël, il manque trois postes à voir avec équipe tournante. Vous souhaitant bonne réception, cordialement, Sally, unité post-opératoire. Oui ? Mathilde ? Je t'appelle pour le soir du réveillon. On manque de monde ici. T'es déjà en neuro-oncologie. Ok, bon, t'en fais pas. Je trouverai bien quelqu'un. Paul, c'est toujours ton répondeur. Écoute, tu devais revenir aujourd'hui. J'espère que ça va. Rappelle-moi, hein ? On a besoin de toi. Oui, Mathieu. Oh, désolé, je suis encore sur les plannings de décembre, là. Quand ? Aujourd'hui ? Il n'y a pas de place ailleurs. Problème d'admission en EHPAD. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On n'a plus de lit, non ? Je suis désolé. La post-op a été créée pour que les gens ne dorment plus dans le couloir des urgences. C'est pas pour que ça recommence ici. Je suis pas les secours populaires, moi. Public, ça rime pas avec populaire. Service public, ça rime avec fric. Voilà, merci Mathieu. Tu connais la blague. Un patient vient voir un docteur. Docteur, j'ai besoin de lunettes. Et le gars lui répond, oui, certainement. Ici, c'est une banque.
Quoi, Sally ?
Quoi, Sally ? Je t'emmerde, Mathieu. Des fois, je me demande comment on fait pour faire entrer des humains dans des tableaux Excel de plus en plus resserrés. Faut que je raccroche. Je dois faire ma tournée. J'ai pas commencé que je suis déjà en retard. Mathieu, désolé, faut que j'y aille. Oui, je passerai prendre le café à la pause, oui, promis. Dehors, les arbres sont comme tachés de blanc. Un petit oiseau se pose sur une branche. Il glisse presque. Sally Mata, auxiliaire de vie. Allô, oui ? Je suis assise dans mon studio, en train de découper de l'agneau. Je cuisine pour le soir. Après, j'ai pas le temps. Les élèves sont chronophages. Aya Nakamura me réconforte. Ah, depuis longtemps, je suis dans ça. Allô, oui ? Oui ? C'est moi ? Oui. J'attendais votre appel. Oui, Sally Mata. Sally Mata Diop, oui. Je comprends. Oui. Oui. Tous les deux jours. À compter de demain. La personne raccroche au bout du fil. Le couteau râpe contre ma peau, ça m'écorche la paume. Une tache sur mon jean. J'appelle Clem. Je viens d'avoir le département. Le préfet me laisse un mois avec obligation de me présenter à la police tous les deux jours. Clem hurle des mots derrière son téléphone. J'ai pas la force. Je peux passer ce soir ? J'appelle Roma, lui demande si elle veut bien échanger. D'habitude, je fais pas les jeudis soirs chez Clem. Elle accepte. J'enfourne la viande. J'ai fait un bassi saleté. Salia, femme de chambre.
They use. Le mot de la mort pour pas dire Love Hotel.
Depuis 10h du matin, ils y sont, dans la chambre d'à côté. Toujours la 302. Tous les mercredis, la même chambre. C'est marqué « Ne pas déranger ». 10h, 17h. Une écurie, des chevaux qui galopent. J'entends les bruits, forts, intenses, qui se répètent. Ils vont encore me retourner toute la chambre. « Oh oui, baise-moi ! Oh oui, baise-moi » qu'ils crient. Monsieur Tac-Tac et Madame, avec leur couple illégitime. Comme dans l'histoire d'Anna Gavalda. Les personnages, ils couchent dans des chambres d'hôtel. Ils font ça, un couple, aux quatre coins du monde. J'ai vu le film l'autre fois avec Daniel Auteuil. Je suis sûre que le type l'a vu, avec sa femme, sa légitime, assis dans son canapé en cuir beige. La prochaine fois, quand il revient, je fais comme en Suisse. Je mets une petite Bible dans la table de chevet.
Je laisse un peu entrouvert le tiroir. Comme ça, quand il se rhabillera, qu'il remettra sa montre avant de sortir de l'hôtel, avant de retourner à son travail, avant d'aller chercher ses gosses, avant de faire le mari idéal, il verra la petite Bible. Et peut-être que comme ça, à l'intérieur, il se sentira un peu con. Sabine vient me voir. « Salia ?
Quoi ?
T'en as fait combien ? 4 ? Ça fait plus de 2 heures que t'y es. Je sais, je m'active, chef. Je suis pas ta chef, Salia. Je suis juste ta gouvernante. » Elle est marrante, Sabine. Avant, on était collègues. Femmes de chambre, toutes les deux. Mais un jour, le médecin lui a dit qu'elle avait le corps pété. Usé, que lui a dit la médecine du travail. Avec Cathy, on se dit souvent que si la direction l'a placée là, c'est pas par altruisme, ni par ancienneté. Mais que ça aurait pu leur coûter cher si Sabine avait demandé une compensation pour la maladie au bout de son corps. Paraît que Sabine l'a jamais dit à sa famille qu'elle avait été femme de chambre pendant 18 ans dans la même boîte. Paraît que quand on lui demandait où elle travaillait, Sabine répondait qu'elle était polyvalente dans un hôtel avec beaucoup d'étoiles. Il est presque 11 heures, faut que je m'active. Comme dit Cathy, plus vite laver, plus vite rentrer. Sally, cadre de service, unité post-opératoire. Bonjour, monsieur Minot. Ça va aujourd'hui ? Ah, ça vous gratte ?
Où ça ?
Dans le derrière de la tête. Vous êtes sûr que c'est pas des poux ? Ou quelque chose à cause de votre oreiller ? Madame Étienne n'est pas venue ? Camille, l'infirmière. Je lui dirai de venir. Oui, oui. Bonjour, madame Alèche. Ça va ? Vous avez froid ? Le plâtre, ça va ? Sale pute. Faut pas dire ça, madame Alèche. Sale pute, faut pas dire ça. J'y peux rien si vous êtes tombée, hein ? Madame Alèche, vous êtes en boucle, là. Madame Alèche ? Attention à votre langage. Sinon, là, je mets pas un soleil au-dessus de votre porte, mais un nuage. On dirait que ça la fait pas rire. Un soleil quand ça va, un nuage quand ça va moins. Un éclair quand c'est pas la joie du tout. Alors le sale pute, on se le garde pour quand on sera sorti. Mais bien sûr que si, vous allez sortir d'ici. Et par la grande porte, qu'est-ce que vous racontez, madame Alèche ? Faut pas dire des choses comme ça. Sinon, moi, à quoi il sert mon métier, hein ? Je croise Evelyne. Elle est où, Camille ? Je sais pas. Et Paul ? J'en sais rien. Faut me parler, hein, Evelyne. En ce moment, c'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Le malheur, c'est pas comme un carré de chocolat. Le malheur, on le partage. C'est comme une tarte. Ça se coupe en plusieurs, sinon ça fait beaucoup pour une seule personne. Un type s'approche.
Je veux parler au responsable tout de suite.
Pardon, excusez-moi, mais on n'a pas vraiment élevé les moutons ensemble. Ni les cochons, d'ailleurs. Alors votre ton un peu agressif, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien reformuler votre phrase dans une langue qui pourrait être appréciable à mes oreilles ?
C'est une blague.
Je veux parler au responsable tout de suite. C'est ce que vous avez dit en me regardant, comme si je ne pouvais pas être la responsable de tout ça. Alors maintenant, je vous écoute, après reformulation. Bonjour madame, excusez-moi, mais j'aimerais parler à un ou une responsable si possible. Si vous êtes cela, alors laissez-moi vous demander... Le type me parle de sa mère, madame Blanche, qui est morte ici. J'applique le protocole. Mes condoléances. J'ai pas accès au dossier. C'est les soins intensifs qui l'ont amené. Je m'excuse. Je dis que je comprends. Je fais signe à Cindy. Faudra appeler la sécurité, là. C'est pas possible. C'est pas un moulin, ici. Faut contrôler qui rentre en bas. Sinon, ça sert à quoi que l'hôpital paye un service ? J'y peux rien, moi, si les soins intensifs avaient besoin de lits. Une femme de 65 ans aux soins intensifs face à un gamin de 15 ans qui a besoin d'un lit, qu'est-ce que j'y peux, moi ? Et puis, ici, c'est mieux qu'un couloir, non ? Les gens croient toujours leurs proches immortels. Mais quelqu'un, ça meurt. Sinon, ce n'est rien d'autre que quelque chose. Tu préviens Paul que ce serait bien qu'il revienne. Et tu me ramènes Camille. Moi, je vais voir Madame Benachour. Sally Mata, auxiliaire de vie. Je m'appelle Sally. Sally Mata, oui. Sally Mata Diop. Je viens du Sénégal. J'ai 25 ans. J'habite Nancy. Depuis 4 ans. Quai Claude Lelorrain. Tout est marqué sur mes documents. Ils m'ont appelé au travail. C'est Daniel, le CPE, qui me les a passés. Ils m'ont demandé de venir le plus vite possible. Alors j'y suis allée. La dame du rectorat est assise en face de moi. Le café fume dans sa tasse. Je suis désolée, madame Diop, mais nous n'allons pas pouvoir continuer votre contrat. Je demande pourquoi, si c'est à cause du département.
Elle ne répond pas. Ils ont reçu des instructions. Ils ne peuvent pas faire travailler quelqu'une qui est illégale sur le sol français. Illégale ? Et les gamins vont faire comment ? J'ai 3 élèves en situation de handicap en 4e et 2 élèves en seconde. Vous savez très bien que l'académie manque d'AESH. C'est pas elle qu'elle dit. Vous savez très bien que j'ai besoin d'un contrat pour être renouvelée et que j'ai besoin d'être renouvelée pour avoir un contrat. Vous savez quoi qu'elle dit ? Un jour, moi aussi, je serai complètement illégale comme vous, là, avec leurs lois de plus en plus idiotes. Un jour, je flinguerai mon chef ou je sais pas qui. On termine l'entretien. J'ai combien de temps ? Aucun. Vous ne pouvez plus travailler pour nous à partir d'aujourd'hui. Vous avez un autre moyen de revenu ? Oui. Ça va suffire ? Non. Je sors de la pièce, le café fume encore. J'appelle Clem. On peut se voir maintenant ? Salia, femme de chambre, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417. 15 chambres, en 6 heures. Toquer, attendre que ça réponde pas, constater l'état de la chambre, ouvrir la fenêtre, débarrasser, vider les poubelles, tirer le lit, enlever les draps. Commencer par la salle de bain, désinfecter les toilettes avec le produit, pendant que ça agit, faire le reste de la chambre. Aller chercher le linge, remettre des draps propres, faire la poussière, passer l'aspirateur, finir la salle de bain. Dans les chambres privilèges, changer les capsules à café, 2 arômes, 4 thés différents, remettre des boissons, jus d'orange, coca light, installer le nécessaire dans la salle de bain, coton-tige, éponge à chaussures, kit de couture, fermer la fenêtre. Gardez le rythme, ne pensez à rien d'autre que de faire ses chambres et les faire le mieux possible. Pratiquez l'auto-évaluation. Voir comment les collègues procèdent et procéder encore mieux. Parfois, je regarde par la fenêtre de petits oiseaux qui volent dans le ciel. Certains portent sur leur plumage des petits flocons de neige. On dirait des postiers d'étoiles. J'aimerais être comme eux. Je ferme les yeux. Un temps, je rêve d'une montagne, d'une falaise, de mon corps tout en haut. Je prends de l'élan, je saute et m'envole. Parfois, à la maison, la nuit, je fais des cauchemars. L'hôtel affiche complet, je dois faire les chambres, mais j'arrive pas à bouger. J'ai les pieds comme dans du béton, la cause au bas de contention qui me cimente au sol. Je finis toujours en retard. J'ai 20 minutes pour faire mes chambres, depuis que c'est 15 chambres en 6 heures. Mais je l'ai fait en 25. Pas grave, je prends sur moi. Je finis un peu plus tard que les autres. 15 fois 5, 75 minutes. 1h15. C'est le laps de temps de toute façon entre le train que je devrais prendre et le train suivant. Je m'en fais pas, c'est comme ça. J'aime le travail bien fait. Sabine m'interpelle. Salia ?
Quoi ?
Le directeur veut te voir dans son bureau.
Quand ça ?
Dès que t'auras fini. Sally, cadre de service, unité post-opératoire. La dernière fois, j'ai rêvé. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, un rêve si précis. Je marchais avec les enfants et Daniel. C'était dans un de ces déserts arides de cartes postales, où l'eau vient à manquer rapidement, où la gorge se noue et la respiration se mue en cristaux de verre épais venant écorcher les cordes vocales, où la prononciation même de son nom devient un fardeau, mais où, dans le lointain de l'horizon, se forment des mirages d'oasis, comme une porte de sortie. Alors avec les enfants et Daniel, nous avons marché vers l'oasis, mais plus nous avancions vers elle, plus l'oasis s'éloignait. Nous semblions courir après notre salut sans comprendre que nous courions après une chimère. Ça me fait penser aux oiseaux à la pépinière. La dernière fois qu'on se baladait avec Elsa, il y avait devant nous des oiseaux, un couple de martinets affairés à dévorer des petites miettes de pain laissées par un flâneur dominical. Et plus nous nous approchions du couple, plus ils semblaient s'éloigner. Nous faisions un pas, et les martinets battaient des ailes avec dans leur bec des miettes qu'ils s'envolaient déguster un peu plus loin. L'opération s'est reproduite plusieurs fois, jusqu'au moment où nous avons atteint l'entrée ouest du parc. J'ai aperçu la route derrière. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot qu'Elsa s'est avancée une nouvelle fois pour toucher les Martinets, que les Martinets se sont éloignés et qu'un des deux a disparu dans une bourrasque de Peugeot, le corps éclaté contre le pare-brise. Madame Benachour me regarde comme toujours. Les yeux tombent, les paupières sépulturent. Aucune réaction. Je souris. Depuis 6 mois que je viens. C'est fou comme vous me faites du bien, Madame Benachour. La sonnerie du téléphone nous interrompt. Allô? Oui? Quoi? Camille? Bordel! Oui. Oui. Je m'en occupe. Salimata, auxiliaire de vie. Clem me dit, c'est pas possible une OQTF comme ça. C'est pas possible qu'on dise rien. J'explique ce qu'ils m'ont expliqué. C'est presque lui qui m'engueule. Il est mignon. Je l'aime bien. Ça fait 4 ans que je bosse pour lui. On dit pas bosser, on dit s'amuser. On fait les boutiques, on joue aux cartes. On va au cinéma, on se fait des restos. Je m'occupe de lui. Je le lave et l'aide à se coucher. Clem m'a même présenté à sa famille. Il a dit que j'étais sa nouvelle sœur, sa sœur de sang. Pour faire chier les réacs, ces tontons fachos de Besançon qui ont jamais vu une noire que dans une pub Benetton. Et ils en ont des raisons, demande Clem. Je lui explique ce qu'a dit la dame du département, que j'étais venue faire un master en agronomie. Si j'étais paysanne, ils arrêteraient de me faire chier. Toi, dans un champ, on se marre. Tu veux une glace? Une glace, en décembre? J'ai appelé un avocat, dit Clem. Ici à Nancy, le tribunal administratif peut peut-être accepter ton recours. Je réponds rien. J'aime bien la France. On marche dans le parc. J'ai pris un rendez-vous au greffe, me dit Clem. Il est mignon, Clem. On dirait un petit soleil. On va pas se laisser faire, ok? Vas-y cet après-midi. Je lui explique aussi pour le rectorat. Les bâtards. Va falloir que je trouve autre chose. Salia, femme de chambre. Un cheveu? Comment ça, un cheveu? Oui, ils ont retrouvé un cheveu. Ce matin, l'hygiène est passée. Chambre 504. Je l'avais faite la veille. Ils sont entrés dans la chambre. Ils ont tout vérifié. On fait des prélèvements avec des loupes, des jumelles. Des trucs qu'on voit dans les séries qu'on regarde avec ma sœur et les chats le samedi soir sur M6. Le type se la jouait Agent Gibbs, le personnage principal de la série NCIS interprété par Marc Harmon. J'ai un poster dans ma chambre au-dessus de mon lit. Alors je connais, on me la fait pas à l'envers. C'est pas parce qu'on a regardé une fois une série criminelle qu'on est un bon agent. Le type a enlevé les draps, la laise, le surmatelas, puis il a levé le dessous du lit. Il a sorti une fiole de sa sacoche comme s'il voulait vérifier la présence de sang ou de je sais pas quel liquide en dessous. Il n'y avait rien. J'étais contente. Puis le type s'est glissé dans les draps. On aurait dit un fantôme. J'aurais bien aimé prendre une photo. Quand il est ressorti, il avait une petite fibre entre les doigts. Et il a fait le fier. Il a regardé sa collègue du genre « Ha ha, on a trouvé l'indice, tout concorde !» Un truc bien à la con. J'ai souri. Ça devait pas être bien grave. Et puis, il devait être là depuis longtemps. Un cheveu. Vous vous rendez compte, Salia? C'est pas très hygiénique, non? Je fais mon travail. Je le fais du mieux possible. Depuis gamine, j'ai toujours voulu travailler dans le luxe. Dans les 5 étoiles. À 20 minutes, la chambre, tout le monde laisserait passer un cheveu. Mais moi, je l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, il faut que ça tombe sur moi? Je suis obligée de vous mettre une mauvaise note, Salia. Une mauvaise note? 12. Sur 20? Oui. Pour un cheveu? Je suis désolée, Salia. Mais comme vous le savez, les excuses ne nettoient pas. Et puis 12, c'est encore la moyenne, non? C'est pas grave. J'ai jamais rien dit. Je dis jamais rien. Quand les clients laissent leur merde dans la douche, je souris. Je dis jamais rien. Quand personne ne nous dit bonjour ou merci, je souris, je dis jamais rien. Quand les collègues se sont plaintes avec les nouvelles contraintes, j'ai souri. J'ai jamais rien dit. Quand elles ont demandé à la direction qu'on passe de 15 chambres à 12, j'ai souri. J'ai jamais rien dit. Je fais mes chambres. 20 ans que je travaille ici. J'ai jamais eu de mauvaises notes.
C'est pas grave, Salia, hein? Je sais très bien que vous êtes une agente consciencieuse. Cette note, c'est rien, d'accord?
Rien. Alors pourquoi vous m'en mettez une, hein? Je peux y aller? J'aurais jamais fini sinon.
Salie, je suis descendue voir ce qui se passe. Une grosse pancarte recouvre la porte d'entrée devant le service. Soins morts. Et d'autres pancartes un peu plus loin. Elles sont une dizaine, des infirmières, des aides-soignantes, entourées de quelques journalistes. Il y a Camille qui parle avec d'autres. Qu'est-ce qui se passe ici?
Camille m'explique le ras-le-bol, la non-reconnaissance, la grève, qu'elle en a marre de cautériser une plaie béante.
Et comment je vais faire, moi?
Le service tourne grâce aux filles comme Camille. S'il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de soins. Et s'il n'y a plus de soins, les patients, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Camille me dit qu'il serait plus juste de parler de clients. Ça va foutre le service dans la merde! Avec les arrêts maladie depuis le Covid, les suspendus à cause de l'obligation vaccinale, le flux tendu. Elles croient quoi toutes, là? Que moi aussi, si j'avais le choix, je me mettrais pas en grève?
Alors pourquoi tu le fais pas? Me demande Camille.
Mais je le fais pas parce que j'ai une conscience professionnelle, moi, Camille! Une conscience professionnelle!
T'es en train de me dire que j'ai pas de conscience?
Je dis pas que tu n'as pas de conscience. Je n'ai pas parlé de ta conscience en général, Camille. J'ai parlé de ta conscience professionnelle. Si tu veux te mettre en grève dans ta conscience familiale, dans ta vie intérieure, j'en ai rien à foutre. Si tu veux être en grève dans ta vie personnelle, si tu veux le soir arrêter de faire la popote, de répondre au téléphone à tes parents qui te demandent si tu viens avec le foie gras ou le dessert à Noël, ça te regarde, Camille. Mais ici... ici, c'est pas possible de faire ça. La grève ici, c'est un meurtre.
Oui, un meurtre. Tout le monde me regarde, les journalistes.
Un meurtre. Je dis des phrases que je regretterais, mais rien à foutre. Tu joues avec la vie des gens, là, Camille. Et c'est pas contre toi, hein. Il y a des gens qui meurent ici. Il y a des gens ici qui se rétablissent. Nous, on est là pour eux. La reconnaissance? La reconnaissance, c'est les yeux des patients, c'est le bonjour, c'est le merci, c'est la poignée de main, c'est le sourire complice, c'est l'accompagnement.
Camille me toise. T'en as pas marre, Sally, du silence? Du silence autour de nous, de nos tâches que personne ne veut faire? T'en as pas marre, Sally, du silence de nos tâches? Moi, j'ai envie de faire du bruit, tu comprends, Sally? Ne rien dire, c'est acquiescer.
Acquiescer? Va te faire foutre!
Je crois que les journalistes m'enregistrent. Va te faire foutre! Va te faire foutre!
Salimata.
Madame Diop? Je le savais que c'était pas une bonne idée. Ça fait 3 heures que je suis assise là à attendre mon tour. J'ai le courrier entre les mains, celui du département.
Alors, on a quoi là-dedans?
C'est une dame qui me demande ça.
Elle a l'air sympathique. Son sourire plisse son visage et lui donne un petit air de biscuit BN.
Tenez, là, c'est la notification de l'arrêté et là, la proposition d'une aide au retour.
Elle me demande le motif. Travail sans autorisation.
Je lui explique mon parcours.
La greffière comprend pas vraiment le refus.
Elle me rassure.
Le recours est suspensif. Tant que le tribunal n'a pas statué, je risque rien.
Il peut statuer en combien de temps?
3 mois.
Et entre-temps?
Vous patientez.
Ah, mais tout va bien se passer, Madame Diop. Je vais transmettre votre demande à la chambre.
À la sortie, j'aperçois Tatiana, une fille qui vit dans mon immeuble. Elle est en train de tirer sur sa cigarette. Avec le froid, ça fait comme un écran de fumée. Je lui demande si ça va. Elle me dit que le tribunal vient de valider son OQTF.
Je suis désolée.
C'est pas une OQTF qui me fera rentrer en Russie, elle me dit. Ça, c'est clair. Je lui parle de ma recherche de taf. Elle me dit qu'elle a peut-être quelque chose pour moi. Je connais Tatiana. Je connais son travail. Je dis, ça va, c'est gentil, mais ça va aller. Salia.
Il y a une jeune qui fait des extras à l'hôtel. Elle vient me voir. Elle s'appelle Aude, mais tout le monde l'appelle Betty. Elle a le jean troué, c'est pas propre. Du vernis noir sur les mains, c'est pas propre. Et des cheveux roses, c'est pas propre. Elle écoute toujours dans ses écouteurs de la musique hyper forte, alors que c'est interdit, ça fait des bruits métalliques, ça fait pas propre.
Elle me demande si ça va. Je lui dis que j'ai bientôt fini mes chambres. Elle me dit qu'elle peut m'aider. Pas la peine. Et puis avec ses mains, là, ça ferait pas propre. Comme j'ai fini, moi, il me reste 20 minutes, si tu veux. Les plus jeunes finissent plus vite, mais tiennent moins longtemps. J'ai mis la télé, c'est mieux.
J'écoute en boucle les informations sur France 3. Dans les infos locales, une altercation à l'hôpital. La femme répète « Va te faire foutre, va te faire foutre ».
Betty change de chaîne.
« Qu'est-ce que tu fais ?»«
Regarde !»
Sur une autre chaîne, des femmes comme nous, balais en main, stagnent devant leur hôtel. Elles sont nombreuses. Toutes les femmes de chambre, plus les valets de chambre, plus certains réceptionnistes.
Ça se passe à la capitale, on voit pas le ciel derrière avec tous les immeubles qui polluent l'écran.
« Eh ben quoi ? Elles ont pas les clés ?» que je demande.
« Elles sont en grève, Salia. »«
En grève ?»«
Ouais. »«
Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute ?»
Elles sont courageuses, non, qu'elle me dit.
Le courage, c'est pas ça.
Le courage, c'est d'avoir le cran de garder ton taf toute ta vie. Et puis, t'es en extra, toi, ici. T'es pas en CDI. Donc, fais attention à ce que tu dis.
J'éteins la télévision.
Si t'as rien d'autre à me dire, tu peux me laisser. J'ai pas fini mes chambres. Et j'aimerais pas être en retard pour une connerie du genre.
C'est à cause de ta note ? Elle me demande.
J'ai rien à te dire.
Aude... Betty.
Sally. Quand je rentre à la maison le soir, la télévision tourne en boucle. Les enfants et Daniel sont sidérés.
Quoi ?
Rien, qui disent. Il y a mes exploits en replay. Elsa me demande si c'est normal que je parle comme ça.
Va te faire foutre, c'est pas très professionnel comme vocabulaire.
On mange. J'ai fait des gnocchis la veille au soir.
Jules se marre dans sa moustache juvénile.
« Quoi ? » ?»«
Je suis végane, man. »«
Et alors ?»«
Je mange plus d'œufs. » »«
Putain de bordel de merde ! Comment je peux savoir, moi, que sa non-consommation de produits d'origine végétale inclut le jaune d'œuf ?»
Daniel ne dit rien.
« Tu acquiesces ?»
je demande à Daniel.
« Non. » »« Rien dire, c'est acquiescer, Daniel. Putain de bordel de merde !»
Je lâche le plat, les gnocchis s'explosent au sol.
D'un coup, Jules rigole moins.
Je le fixe.
Tu vas me dire, va te faire foutre aussi ?
Je quitte la table. Je vais dans la chambre. Daniel me rejoint.
Si c'est parce que c'est dur au boulot, qui commence à me dire.
C'est dur pour tout le monde, Daniel. Le monde, c'est dur. Le monde n'est pas un soufflé au fromage.
Faut que ça sorte, peut-être.
Et... Arrête de faire ton putain de CPE, Daniel. Je suis pas ton élève, je suis ta femme.
Tu veux me dire ce qui ne va pas ?
Mais putain, Daniel ! Lève voir un peu la tête de ta vie. T'as vu le bordel dehors ?
Tu veux me faire la liste ?
La liste ?
L'addition.
L'addition, tu veux dire ? Le service où on n'est pas assez nombreuses ? Plus le fait qu'on n'arrive pas à recruter, plus Camille qui fait la grève, plus Paul qui est introuvable, plus les patients qu'on ne peut pas prendre, plus d'autres qui nous insultent, plus d'autres qu'on garde.
Tu parles de Madame Benachour ?
6 mois qu'elle est là, un légume. Disent qu'elle s'en remettra jamais et nous on la garde là parce qu'on pratique des soins, qu'elle a déjà un lit hein, et que de toute façon on ne peut rien faire d'autre.
Rien faire d'autre ?
Mais je vais te dire, le débat sur l'euthanasie, c'est pas un débat moral. C'est juste que c'est pas rentable. L'euthanasie n'est pas un problème éthique, c'est un problème économique.
Daniel se lève.
Pourquoi tu te lèves ?
C'est pas l'heure, Sally, pour un débat sociétal. Je voulais parler de nous.
J'en ai marre, Daniel.
J'en ai marre, putain !
Et le pire, c'est que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y gagne, l'État, à faire ça, hein ?
À imaginer le soin... Comme une chaîne de production, bordel, hein ?
Quand toutes les infirmières seront devenues des patientes parce qu'elles auront toutes pété un câble, qui c'est qui aura gagné ?
J'ai comme une tache à l'intérieur. J'arrive pas à effacer. C'est dans le crâne, là.
Ça part pas. J'en peux plus, Daniel.
Demain, on ira faire un tour de grande roue, Kim dit. Voir la neige d'en haut sur les toits. Avec les enfants, ça nous fera du bien.
Salimata, le soir, je retrouve Clem.
3 mois?
Bah oui, ils peuvent faire ça.
Ben, faut croire. Clem me dit de prendre dans son sac 2 petites enveloppes.
Je regarde la première.
Ouvre. C'est quoi?
Des chèques emploi-service et du liquide.
Pourquoi faire?
Si des fois le tribunal venait à confirmer la décision du préfet...
Je veux pas de ta pitié, Clem.
Ma pitié?
C'est toi l'handicapé, hein? Toi qu'on lave? Toi qu'on couche depuis gamin? Hein? Non?
Donc ta pitié, tu te la mets où je pense?
Il y a quelque chose dans ses yeux. Je comprends pas. Quelque chose d'étrange.
Il y a quoi?
Rien.
Clem, il y a quoi?
Toi et moi, même combat pour l'État français.
Il me dit d'ouvrir l'autre enveloppe, un document qu'il a reçu cet après-midi.
Sur le papier, des mots lui indiquant bien poliment qu'il faudra réduire d'un tiers ses heures d'auxiliaire de vie à compter de l'année prochaine.
Sally,
quoi? Et là, Clem prend une voix quasi robotique et me dit en jouant de ses bras avec le poivrier
« L'avenir sera sombre pour les cyborgs comme nous. »
Clem est si grand dans son tout petit corps.
« Je t'ai pris rendez-vous dans une agence demain matin, je les connais. Ils auront peut-être quelque chose pour toi. »
« Merci. On mange le bassi salté. »
Clem l'aime pimenté, même si parfois ça passe pas tout à fait.
Salia. La nuit est tombée comme un cil, recouvrant la neige de sa paupière bleutée. Je suis repassée voir le directeur dans son bureau. Je me suis baladée en ville, oscillant entre la délivrance et la honte. J'ai loupé mon train. Le prochain est dans plus d'1 heure. Il est 21h. Je me mets assise sur les bancs anti-clodo devant la gare. Une femme passe avec des petits prospectus. J'aime pas les témoins de Jéhovah. Elle s'avance vers moi. Si c'est pour Jésus, je la reconnais. Je l'ai vue tout à l'heure sur les images devant l'hôpital. Vous faites quoi dans la vie?
Je lui dis que je travaille dans un hôtel.
Femme de chambre?
Polyvalente.
Polyvalente, je dis.
Et si on arrêtait tout? Qu'elle me demande.
Tout?
Quoi?
Elle me tend un papier. Camille! Une autre femme avec des prospectus l'appelle. On se voit demain? Sur son papier, l'horaire d'un rassemblement demain à 18h. Et si on arrêtait tout? Alors notre silence prendrait voix.
Madame?
Il y a une autre fille qui vient me voir avec un type étrange au visage rougi par l'alcool. La femme a l'air d'avoir froid. Elle tremble. Elle veut une cigarette. Je lui dis que j'en ai pas. Elle me demande si je peux l'aider.
Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi c'est toujours les gens pauvres qui devraient aider les gens pauvres?
J'ai pas le temps, je suis désolée. J'attends mon train. L'excuse a pas l'air de prendre.
Parce que t'as un travail, toi? Une famille? C'est pour ça que t'as pas le temps?
Mais quand on aura pu, bah tu verras, qu'elle me dit.
Ouais, ça doit être ça.
Objet à l'intention de la direction du CHU. Voici la liste des grévistes. Camille Etienne, Myriam Mansouri, Gisèle Alphand, Evelyne Poirot. Je n'ai pas encore le nom pour celle de l'après-midi. PS. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Paul Raoul. Avez-vous pu l'avoir au téléphone? Vous souhaitant bonne réception, Sally.
Mathieu m'appelle.
Allô?
La direction veut me voir. Ils ont qu'à descendre.
Mathieu m'annonce la nouvelle.
Un blâme?
C'est une blague. Un blâme.
Et pourquoi exactement?
Pour avoir dit va te faire foutre à une collègue? Pour avoir essayé de récupérer une infirmière?
Oui?
Non?
Ou pour l'avoir fait devant des journalistes.
Et encore, c'est qu'un blâme, me dit Mathieu.
C'est ce qu'ils disent. Que ça aurait pu être pire.
Ah, c'est sûr qu'une exclusion temporaire pour 15 jours, je sais pas vraiment comment ils auraient fait.
Va te faire foutre, toi aussi, Mathieu. Et non, je passerai pas boire le café, non.
Le téléphone sonne une nouvelle fois.
Allô?
C'est une voix tremblante qui m'appelle.
Allô?
Oui? La femme de Paul.
Et?
Putain de bordel de merde.
Vous cherchez quoi exactement, Madame Diop?
Je ne sais pas du tout.
Vous savez qu'ici, vous êtes dans une boîte de service à la personne.
Tout ce que vous avez.
Qui vous a parlé de nous?
C'est Clément Vorlot.
Vous avez vos papiers?
Oui.
Vous me les montrez?
Je tends ma carte de séjour.
Elle est périmée depuis 2 mois, Madame Diop.
Je suis désolée, mais aucune agence ne pourra vous embaucher si vous n'êtes pas régularisée. Je rentre chez moi. Tatiana fume une cigarette devant le hall.
Ça va? Qu'elle me demande.
Bof. T'auras des nouvelles quand du tribunal?
Dans 3 mois. Ça devrait arriver d'ici peu.
D'ici peu, en France, ça veut dire « cours toujours ». Tu sais, ma proposition d'hier tient toujours.
Il y a de l'emploi ici en France pour les gens comme nous.
De l'emploi? Suffit de toquer aux bonnes portes? Tu veux que je te montre un truc?
Tatiana m'invite chez elle. Elle me présente son site internet. Elle travaille en freelance. Sur son site, c'est marqué « Infirmière sensuelle et sexuelle ».
Infirmière?
Tu vas pas un peu fort?
Fort?
Tatiana me regarde et dans un français cassé me dit « Tu sais d'où ça vient le mot infirmière ?»«
Ça vient d'infirme. »
« Et ?»« Des infirmières à la base, c'était des prostituées dans les hôtels Dieu qui soignaient les malades. »«
Et ?»«
Tu fais quoi ce midi ? Tu m'offres 2 heures de ton temps ?»«
Tu sais, moi, Tatiana, je t'aime bien. Mais c'est pas fait pour moi, ce genre de métier. »«
Oui, voilà. » Viens et tu verras.
En arrivant à l'hôtel, la neige a presque recouvert le sommet des bâtiments. Nancy est enveloppée d'un étrange manteau blanc. Les premiers clients déjeunent. Personne ne me regarde. Je dis bonjour à un monsieur qui manque de renverser son café sur mon blouson.
Vous pouvez pas faire attention, qui me dit.
Je m'excuse. Je rentre dans le vestiaire. Je me change.
Il y a Cathy qui est assise à côté de Sabine. Elle parle à voix basse.
J'entends Sabine lui dire « Tu croyais quoi, Cathy? Qu'ils allaient laisser passer ça? Allez, on s'active et on s'y met. » Et puis elle s'éloigne. Pourquoi on veut rien me dire à moi? Cathy est toujours assise. Je lui demande ce qu'elle a. Betty, la nouvelle qui est en extra.
Eh ben,
la direction l'a remerciée.
Pourquoi?
Ils n'ont pas donné d'explication. Cathy me regarde.
Je la regarde. Allez, viens, on va pas se mettre en retard pour des conneries pareilles. Et puis ce qui est à Paris doit rester à Paris, non? C'est bientôt Noël, hein? Et qui dit Noël dit... prime d'intéressement!
Chambre 303. J'ouvre la porte. La chambre est en bordel. Ça va me prendre plus de 30 minutes. 10 heures. C'est l'heure des monsieur tac-tac. They use.
J'aère.
Par la fenêtre, le cortège. L'homme rentre, puis quelques minutes plus tard, un faux nom en bas, le numéro de la chambre, l'ascenseur. 15 minutes plus tard, les chevaux. Je lève la tête. Les oiseaux blancs dans l'air, par la vitre, qui volent au-dessus de la ville, comme des rapaces en approche. J'entends une voix. En bas, il y a un homme. Devant l'hôtel, et une femme, celle qui tremblait hier soir devant la gare. Elle doit lui demander quelque chose. L'homme semble ne pas comprendre. Elle redemande. L'homme lui dit « non, je crois ».
J'entends ce mot. Non. Non.
La femme redemande. L'homme la pousse. La femme qui tremble tombe au sol. Dans la neige, son corps marque une trace. L'homme rentre dans l'hôtel. La femme qui tremble reste allongée. Je relève la tête. Les oiseaux descendent et dévorent d'un coup la femme. Je ferme les yeux, les rouvre. Les oiseaux n'ont pas bougé.
à volter dans l'air comme des croque-morts en attente. Je ferme la fenêtre, je sors de la chambre, je fais signe à Cathy, chambre 305.
Je vais prendre une pause.
Toi, une pause ?
2 minutes, je reviens.
Je descends les marches 4 à 4, j'arrive dans le hall. Sabine me demande ce que je fais. Rien, rien. Je sors dans la rue. La femme qui tremble, tremble au sol. Ça va ? Elle répond pas. Je lui tends la main. Elle a un peu peur, je crois. Je lui dis de venir avec moi. J'attends qu'il n'y ait plus personne dans le hall, que la réceptionniste ait le dos tourné. On monte au 3e, chambre 303. La femme a du mal à me suivre. Elle fait des petits bruits de grelots avec sa bouche. Je lui dis de faire moins de bruit. On rentre dans la chambre. Déshabille-toi. Elle comprend pas. Je ferme la porte. Déshabille-toi, je lui dis. T'as les vêtements trempés de givre. Elle s'exécute. Je la mets sous la douche. Tiens, tu te savonnes avec ça. La femme est nue dans la salle de bain. Elle a le corps parsemé de petites lacérations. Je demande pas, ça me regarde pas. Je lui dis que je reviens. J'ai un peu de nourriture dans mon sac. Je sors de la chambre, tourne la pancarte, ne pas déranger. Tu vas où encore ? Me demande Cathy. Je reviens. 10 minutes plus tard, je suis remontée. J'ouvre la porte de la chambre. La femme qui tremblait s'est allongée dans le lit. Elle ne tremble plus. Je lui pose mon club sandwich sur la table de chevet. Dors, va. Faudra libérer la chambre à 17h. La femme ne répond pas. Je descends à l'accueil. Cathy me suit de près.
Qu'est-ce que tu fais comme connerie, Salia ?
Des conneries ? Moi ? Arrivé à la réception, je dis « Je peux réserver une chambre pour l'après-midi ?»«
La réserver ?
Oui, la 303. » Je fais un petit sourire à Audrey qui est nouvelle. Je lui dis qu'il y a un client, c'est comme ça en dayouze. Il passe pas par la réception, mais par derrière parce que c'est un client important, un gars de la mairie, que ça passe toujours par moi parce qu'on se connaît et qui sait que je fais pas d'histoire.
« Comment il va régler ?» Je sors ma carte bancaire. « Ça fera 100 €, »
me dit Audrey.
Je suis sortie moi-même pour l'annoncer aux filles dehors. Mes pieds s'enfoncent dans le duvet neigeux. Elles sont de plus en plus nombreuses. Bloc mort, soins morts, infirmes, infirmières. Elles se préparent à aller manifester. Camille, Evelyne, Myriam, Cindy, Gisèle.
Avant que j'aie eu le temps de parler, Camille m'annonce que le hashtag « le silence des tâches » commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux.
Je m'excuse.
Je n'acquiesce pas, je dis. J'annonce la nouvelle.
Tout à l'heure, comment dire, tout à l'heure, là, je... C'est la femme de Paul m'a appelé. Il y a quelques heures, Paul Raoul est... Comment dire ? Paul est mort. Voilà, mort. Il a pris des médicaments dans l'armoire de service.
J'explique que Paul a laissé une lettre à l'intention du ministre des Solidarités et de la Santé. J'annonce que la direction a ouvert une cellule de crise. Je remonte dans le service. On arrive sur place, boulevard Clémenceau, numéro 63. Tatiana est tout apprêtée. On dirait une étoile polaire.
C'est bon, Clément, t'as laissé ton midi ?
On sonne. Une voix âgée nous répond.
C'est pour Cyril ?
Oui.
C'est Tatiana ?
Exactement. Et Salimata ?
Je vous ouvre.
On entre. On passe la porte. On prend l'ascenseur. On arrive au 3e.
Bonjour, Flavie.
« Je vous laisse, » dit la vieille dame. « Cyril est dans sa chambre. Il est prêt. »«
Merci, Flavie. Je reviens dans une demi-heure. »
Quand on entre dans la chambre, Cyril est déjà allongé sur le lit. Tatiana me présente. Cyril répond d'un petit rictus. « Ça te va si elle se met dans un coin pour observer comment je fais ?»
Cyril répond d'un petit bruit qui semble acquiescer. La séance commence.
Elle enlève son pull, puis son t-shirt. Se met assise au bord du lit médicalisé de Cyril. Sort de son sac une huile de massage. Relève le drap. Cyril est en caleçon. Elle applique la pommade sur son corps. Cyril rit. De petits mouvements dansent de ses bras. Ça dure plusieurs longues minutes. Tatiana, tout en prenant une voix douce, m'explique ses soins. La pommade, comment passer les mains, quelles questions poser. Tu veux que j'enlève mon soutien-gorge ? Cyril acquiesce une nouvelle fois. Et tout doucement, Tatiana vient se poser sur son corps. Il va falloir que tu sortes, me dit-elle alors. Oui, d'accord. Je m'assois dans le canapé du salon. Après quelques minutes, un bruit de clé perturbe le silence. La vieille dame ouvre la porte. Elle s'avance vers moi. Elle a l'air cordiale. J'aime pas les gens bons. Dans un monde qui l'est pas, les gens bons sont des survivants. Et les survivants en ont forcément écrasé d'autres pour être où ils en sont. Alors, vous aussi, vous êtes... Sally, je dis, Sally Mata. Bonjour, Sally. Bonjour, madame. Je sais très bien ce que vous pensez. Une petite vieille comme moi, hein, et son petit-fils, à qui elle paie une assistance sensuelle et sexuelle. On dit pas infirmière ? La vieille dame me sourit. Tatiana sort de la chambre de Cyril. La vieille dame ne dit rien et d'un tiroir de sa commode tend une enveloppe à Tatiana. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'ai fait la moitié de mes chambres. Le directeur passe me voir. J'ai peur qu'il me parle de la 303. Je fais comme si je l'avais pas vue. Merci, Salia, qu'il me dit. Merci pourquoi ? Pour Betty. C'est bien que des gens comme ça reviennent pas ici, hein. On est une équipe. Les agitatrices, ça sert pas à grand-chose. Avant que j'aie eu le temps de disparaître par l'escalier, il me dit « 18 ». Pardon ? Je vous ai changé la note. Je me retourne, le regarde. Merci. Arrivé dans le hall, il y a Cathy et Sabine qui sont là. « Qu'est-ce qui va pas ?» me demande Sabine. « Rien. T'es pas un peu malade, là ? Tu crois qu'on t'a pas vu faire monter la fille ? Putain ! T'imagines si la direction la prenait ? » Je dis rien. Je reste la tête baissée. J'attends que ça passe. Faut plus faire des choses comme ça, Salia, ok ? En 20 ans de métier, tu l'as jamais fait. Alors pourquoi aujourd'hui ? On te couvre, hein. Nous, on dira rien, ok ? Mais faut pas faire des choses comme ça. Sabine change tout à coup de sujet en prenant une voix solennelle que je lui connaissais pas. « T'y vas tout à l'heure ?» Elle me montre sur son téléphone. Le hashtag « le silence des tâches ». Des milliers de personnes ont liké. La manifestation va être suivie. « Je dois retourner faire mes chambres. »« Oui, monsieur Minot. »« Désolé, c'est la course aujourd'hui. »« Derrière la tête, oui. »« C'est la tumeur, monsieur Minot. »« C'est pas l'époux. »« Oui, madame Alèche ?»« C'est la sale pute pour votre bras. » C'est la sale pute qui vous dit que vous sortirez d'ici à la fin de la semaine, si tout se passe bien. Oui, monsieur Clément, oui, ça va. C'est rien, le diabète à votre âge. Ce sera pas la cause de la mort, hein? Oui, madame Vienne, je vous comprends. Moi aussi, j'aimerais encore être insouciante. Où ça? Sur ma veste? C'est rien. Une tache de café? Oui, c'est rien. Le silence des tâches, c'est rien. Les silencieuses tâches, c'est rien. Oui, madame. Bla. Oui, monsieur. Bla, bla. Oui. Bla, bla, bla. Oui, bla, bla, bla. Oui, bla, 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 bla. Oui. Non. Oui. Bonjour. À vous aussi. Soin. Prendre soin. Oui. C'est rien. Une tâche. La veste, c'est rien. Une tâche. C'est sale. Sali, sale, c'est rien, oui. Prendre l'air, oui, c'est rien. Tâche qu'on lave, tâche qu'on efface, tâche qu'on remplace,
J'ai mal à la tête, putain! J'ai mal à la tête!
Madame Diop? Oui. Madame Diop, bonjour. C'est la greffière du tribunal administratif.
Oui?
Je voulais vous dire qu'on a épluché votre dossier.
Et?
Il nous faudrait des documents complémentaires pour qu'ils soient recevables.
C'est-à-dire?
Votre diplôme de master, votre diplôme de licence, tous vos baux locatifs depuis que vous êtes en France.
Pardon?
Je vous communique tout par mail.
D'accord.
J'ai vu un juge. Il a parcouru votre dossier. Il pense rejeter la demande du département, mais il faut attendre le jugement.
Ça veut dire que je vais pouvoir renouveler ma carte de séjour?
C'est pas si simple.
C'est-à-dire?
Après jugement, il faudra en faire la demande au département.
D'accord.
J'appelle Clem. Tu veux pas faire quelque chose tout à l'heure?
T'étais pas avec Tatiana?
C'est pas pour moi son truc. Je pourrais t'inviter au resto ce soir. On pourrait d'abord aller boire un verre Place Saint-Èvre et après aller en vieille ville.
Tu fais chier, Sally.
Pourquoi? Mes chemises sont au sale. Je raccroche. J'ai envie de mettre une robe. Je reçois un texto de Tatiana. Si mon taf t'intéressait pas, peut-être que ça, ça t'intéressera. J'ouvre le lien. Un hashtag. Le silence des tâches. Rendez-vous à 18h. Je réponds. C'est sympa, Tatiana, mais vu ma situation, je préfère ne pas me faire remarquer. Tout à coup, il y a un grand cri dans l'hôtel. C'est strident. Ça vient du 3e étage. On y va en courant. En arrivant devant la chambre 303, la porte est ouverte. Deux types de la sécurité tiennent la femme qui tremble comme une criminelle. Le directeur nous regarde arriver avec Cathy. Il y a Audrey derrière lui. Le directeur demande.
C'est laquelle des deux?
Je sais pas.
Baragouine Audrey.
Audrey!
Salia. C'est Salia.
Le directeur me fixe.
Salia, dans mon bureau, tout de suite.
Et donc, on avançait dans le désert. On marchait tous les quatre.
Il n'y avait pas d'issue.
Et le désert ne cessait de s'étendre au loin. Après de nombreuses heures de marche, je crus même apercevoir le bout du monde. Et ce n'était rien d'autre qu'un long trou. Rien d'autre. Alors, peut-être parce que nous marchions depuis de nombreuses heures, on a sauté dedans, avec les enfants. La terre s'est alors retournée et au bout du trou, nous avons atterri sur une terre douce, verte et hospitalière. De l'eau ruisselait d'un petit torrent. Des fruits pendaient aux branches des arbres. Tous les quatre, nous nous sommes regardés. Et déjà, nos visages ne ressemblaient plus à ces visages que nous avions dans la vraie vie. Ternes et fatiguées, tachées de silence. C'étaient des visages de joie. Madame Benachour, les yeux blancs, vides, répond toujours pas. C'est rien.
C'est le silence des tâches, Madame Benachour.
Respirez profondément. Avec la petite aiguille, là, j'injecte le produit. Ça s'appelle du Nimbutal. Vous ne sentirez rien, Madame Benachour.
C'est le silence des tâches, Madame Benachour.
Faut que je prenne l'air, putain.
On n'a pas beaucoup le choix des tables, à cause du fauteuil. Clem est plutôt en forme. Il a été malade la semaine dernière, alors pour nous, c'est une bonne nouvelle. Clem me dit, regarde dans mon téléphone. J'ouvre ses mails, et là,
des photos d'une prairie,
sous plusieurs angles. Je croyais que t'étais fan des motos. Depuis quand t'es fan des prairies?
Ta prairie, qu'il me dit.
Et puis Clem fait ses yeux, là. Ses yeux qui vont bien. Ses yeux qu'on a envie de dévorer, qu'on dirait un petit chat perdu.
Prends dans la poche de ma veste.
Il y a un papier. À mon nom. Dessus, c'est écrit. Moi, Clément Vorlot, lègue à titre gracieux,
5 hectares de prairies à Madame Salimata Diop.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il te faisait chier parce que t'étais pas agronome. Mais avec 5 hectares de prairies dans le Doubs, tu vas voir ce qu'ils pourront en dire.
Léguer, ça fait un peu testamentaire, non?
Je pose la main contre sa joue. Des gouttes coulent de ses yeux à ma main.
Vous voulez commander?
Demande le serveur.
Bien sûr, dit Clem. C'est jour de fête aujourd'hui.
Je reçois un texto de Tatiana. Alors, vous venez à la manif?
C'est quoi? Me demande Clem.
Je lui montre. Clem sourit.
Le rassemblement est dans moins d'une heure et on est à quelques rues.
J'ai toujours aimé les fêtes populaires, qui dit.
On entend des bruits au loin, des bruits de foule.
On est assis depuis une bonne quinzaine de minutes.
Le directeur me regarde avec des yeux à pas en revenir.
5 minutes passent. Je lui dis comme ça, une chambre.
Il comprend pas.
Il m'a demandé de lui expliquer ce qu'il avait bien pu me passer par la tête. J'ai expliqué. Day use. Je paie une chambre privilège à une amie. Le directeur m'a dit de pas faire la maline. Depuis, j'ai arrêté de parler. 20 minutes. Une chambre. Une heure. Trois chambres. Il commence à comprendre mon manège.
Salia, je comprends pas. Une employée modèle comme vous? 20 ans que vous travaillez ici.
12, monsieur.
12 ans?
12 sur 20.
Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous parlez de votre note, Salia?
Il ne comprend toujours pas. Par la fenêtre, à côté de lui, les oiseaux, la neige, les postiers d'étoiles. La fenêtre est ouverte. Il rentre dans la pièce, lui perce les yeux. Le directeur crie.
Salia?
Quoi?
Je peux savoir ce qui vous est passé par la tête?
Il ne m'est rien passé par la tête. J'ai payé une chambre à une femme qui ne pouvait pas se le permettre.
Une SDF, Salia. Dans un hôtel de luxe? Vous allez me dire comment vous voulez qu'on procède? Licenciement pour faute professionnelle ou rupture conventionnelle?
Sur la table, il y a un petit couteau pour ouvrir les enveloppes. Comme ça, je dis. Je prends le petit couteau et je le place là, juste en dessous de sa jugulaire.
Salia, vous êtes avec moi?
Si j'appuie, il y aura une tache qui fera du bruit.
Salia, vous m'écoutez?
Maintenant, ça suffit. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler. Tu vas la reprendre ici, Betty. Tu vas baisser le nombre de chambres. Rédiger un document que les clients signeront pour avoir la politesse de dire bonjour. Et tu vas surtout arrêter. Arrêter avec tes putains de notes.
Salia, vous êtes sûre que ça va?
Je lui tends un papier avec un stylo et je lui ordonne de rédiger. On ne sortira pas d'ici tant que vous n'aurez pas fait ça.
Salia, vous regardez quoi là?
Le directeur s'exécute. Il y a des bruits dehors, des bruits de gyrophares. Quelqu'un a dû prévenir la police.
Salia, c'est pas si grave. Faut pas pleurer pour ça. Vous allez rentrer à la maison et on en reparle demain, d'accord?
Je laisse la lettre bien en évidence. Sors le directeur de son bureau, lui indique une chambre, la 126, lui dit de rentrer dedans, qu'il y a du café, du thé, tout le confort nécessaire pour son petit day use improvisé. Et je referme la porte.
À demain, Salia. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. On est tous un peu sur les nerfs en ce moment.
J'arrive sur place. Toutes les collègues sont là. Evelyne a bricolé une pancarte à Paul Raoul, tacheux effacé. Les rues sont blindées de monde. Toutes les soignantes se sont passées le mot. J'entends la foule dire « Non !» Il y a une femme à côté de nous. On dirait celle de la vidéo de l'hôpital hier. On cherche Tatiana. La ville est immobile. Le silence des taches recouvre le bruit du monde. J'entends la foule dire « Non !» J'ai entendu les flics monter 4 à 4 les marches d'escalier.
Ils doivent être peu nombreux, étant donné la manifestation, moi. J'ai poussé la porte de la sortie de secours. Je suis sur le toit. La neige, ça glisse. Les oiseaux me regardent. Je m'approche du bord. En bas, plus loin, toute une foule qui dit « Non !» Il y a des femmes de ménage, des femmes de chambre, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, des infirmières. Plus loin, je vois la grande roue. Daniel et les enfants sont tout en haut. Ils me font un petit coucou. Je regarde le ciel, les taches des nuages. Tout ensemble, là, on est nombreuses. Clem est quasiment le seul gars. Les gens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Un appel à la grève de toutes les travailleuses du soin. On rejoint Tatiana. Elle nous a fait 3 petites pancartes avec des bouts de carton. Clem porte fièrement la sienne. Le silence des tâches.
Nous !
Dans la foule, j'aperçois Cathy, Sabine et la jeune femme qui tremblait hier. Elle me fait un signe avec les mains. Un signe qui semble dire « Merci ». Il y a Betty aussi, accoudée à un feu rouge, avec une pancarte. Hashtag, quand le silence des tâches prendra la parole, les choses changeront.
Non !
Au loin sur un toit, il y a comme une tache dans l'horizon.
Non !
Sur un toit, une femme semble dressée. Tout le monde la regarde. Deux dames à côté de moi hurlent « Salia ! Fais pas de conneries, putain !» Tatiana est un peu plus loin. Il y a 3 flics qui l'arrêtent. Je les entends dire « Vous avez vos papiers ?» Tatiana ne répond pas « Vos papiers ! Vos papiers !» Tatiana sort le récépissé de son OQTF. Les flics la regardent. « Madame, vous allez devoir nous suivre. » On les regarde disparaître avec Clem dans le brouillard neigeux.
« Non !»
Juste à côté de moi, le fronton de l'hôtel. Son nom, ses étoiles. Je suis dans le cosmos. Je lève la tête. Les oiseaux. La neige. Je rêve d'une montagne. D'une falaise. De mon corps tout en haut. Je prends de l'élan. Je saute. Et m'envole.
Nous. 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 Nous les salis. Nous les tâches. Nous les silences. Nous les 3
nous
fois
les silences tâchés.
Les 3 fois
nous
tâchés.
Les salis.
Nous les 3 fois salis. Nous les 3 fois rien.
Trois fois salis. Un texte lu par Marie-Sona Condé. Écriture et mise en voix, Guillaume Caillé. Sound design, Bernard Valéry. Production, théâtre de la manufacture, CDN Nancy-Lorraine.